CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h. Aujourd'hui, vous écoutez Radio VCE avec Monique Couteau qui va nous faire un tour du conseil municipal du 10 février dernier.
Oui, quelques explications de ce qui s'est passé ce jour-là.
Suivi de la chronique de Jean Barthe qui va nous parler, pour rester dans le thème du numérique, de protection des données.
Bonjour, on va parler de nos petits messages secrets.
Et sera suivi de Clément Chassin qui va nous parler cette fois-ci de, comment on peut appeler ça, c'est quoi un oignon?
C'est un légume, voilà.
Ensuite, Alain de Frémont, la saga des grands magasins, une exposition à retrouver où ça, quand ça?
Alors, à la Cité du patrimoine et de l'architecture, Palais du Trocadéro, jusqu'au 6 avril.
On en parlera tout à l'heure. Et enfin, on terminera l'émission avec, cette fois-ci, une invitée, Marianne Huffschmidt, qui va nous parler de son parcours atypique avec Monique Couteau. Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, quel était l'ordre du jour de ce fameux conseil municipal du 10 février dernier?
Alors, le point essentiel était, comme chaque mois de février, la présentation du rapport d'orientation budgétaire. En plus de ce rapport qui était donc présenté, il y avait aussi 9 délibérations qui sont le reflet de la gestion ordinaire d'une commune ou alors de choix politiques faits à un moment donné. Parmi ces délibérations, une portait sur l'attribution d'une subvention de 20 000 euros à la population mahoraise pour la reconstruction après le passage du cyclone Chido par le biais de la Croix-Rouge française. Une autre délib sur la recherche d'un nouveau contrat d'assurance pour la garantie des risques statutaires de la collectivité. Une sur la constitution d'un groupement de commandes pour un marché de services de cars scolaires. On voit là que c'est effectivement les questions de gestion ordinaire. Il faut retenir la délibération qui fait appel à candidature pour une crèche associative à Manérol et souligner que les batailles que notre groupe mène depuis le début du mandat pour l'augmentation de places en crèche portent ses fruits, puisqu'au départ, le maire parlait d'une maison d'assistante maternelle et non pas d'une crèche. Il y avait aussi une délibération sur le projet alimentaire territorial et la demande d'une subvention auprès du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une sur une convention avec la ville de Paris pour la gestion et la prévention des risques liés aux carrières à Chaville. Les anciennes galeries concernent 580 820 mètres carrés et la contribution à cette charge pour la ville a été de 8 903 euros pour 2024, soit à l'époque 0,34% des charges globales de fonctionnement annuel de l'inspection générale des carrières, mais dorénavant, la charge pour la ville sera de 2,08% car le département a réduit sa participation. Une aide aux propriétaires de logements chauffés au fioul, qui sont au nombre de 510 à Chaville, répartis entre 154 logements individuels et 356 logements collectifs. Là, il s'agit d'aider les propriétaires de maisons individuelles à sortir de cette énergie au fioul dans le cadre du plan climat, air, énergie territoriale. Donc une aide financière de 300 euros qui s'ajoute aux aides de GPSO. Enfin, les deux dernières délibérations concernaient les travaux pour la cuisine communale et la crèche, avec l'approbation des marchés de travaux aux différentes entreprises pour un budget global de 7 206 700 euros TTC. En 2021, l'architecte retenu 472 000 euros, mais comme souvent sur des projets qui s'étalent dans le temps, les coûts augmentent, soit parce que des expertises ou des compléments de travaux s'avèrent nécessaires au fur et à mesure de l'avancée du chantier, soit parce que l'architecte a en quelque sorte préféré voir plus juste au départ pour être sûr de remporter le marché public, soit aussi selon les aléas de la situation économique. Ici, on a connu l'inflation sur les prix des matériaux. Rappelons que ce projet bénéficie de subventions, 4 500 000 subventions annoncées en janvier 2024. Et puis, dans le cadre de ces délibérations-là, une augmentation pour la maîtrise d'œuvre, hein, pour la construction de la cuisine et de la crèche de 33,58%, c'est-à-dire qu'on est passé de 703 550 euros hors taxes à 939 773 euros hors taxes. Voilà pour l'ensemble des délibérations.
Tu as dit qu'un point important avait été porté sur les orientations budgétaires. Que peut-on en dire ?
Oui, alors ça, c'est toujours très long parce que c'est un document de 29 pages que le maire détaille. Alors, nous ne votons pas le rapport budgétaire. Nous constatons sa présentation. La déclinaison votée sera celle du budget au Conseil du mois de mars. Nous avions trouvé à la lecture le document écrit très optimiste dans sa tonalité globale et déjà, disons-le, présentant un bilan de mandat très positif. Rappelons que nous sommes à un an des prochaines élections municipales. Nous sommes intervenus sur le contexte international et national pour insister sur ce qui nous paraissait inquiétant, car la situation à Chaville peut être tout à fait impactée par la situation globale. En particulier, nous avons évoqué l'arrivée de Trump au pouvoir, ses discours et ses actes, que ce soit à l'égard de ses opposants, des immigrants, de la communauté LGBT, du réchauffement climatique, de ses bouffées impérialistes, de ses possibles tractations avec Poutine sur le dos des Ukrainiens, et on en a vu la preuve récemment, ou de son projet de Côte d'Azur en Palestine, qui chassait 2 millions de Palestiniens de leurs terres. Et tout ça, effectivement, ça ne peut qu'accroître les tensions à tous les niveaux. Si on rajoute les propos d'Elon Musk qu'on a évoqués il n'y a pas longtemps, le soutien de ce dernier à l'AFD en Allemagne, où il y a vraiment clairement une partie de néo-nazis, ça a eu pour effet de renforcer un vent mauvais en Europe. Et ici, on a entendu certains envisager de remettre en question le droit du sol, qui est un de nos fondements républicains. À propos du budget national adopté au 49-3, pour la première fois depuis 25 ans, un gouvernement réduit les dépenses publiques en attaquant les budgets alloués à l'écologie, qui trinque beaucoup, au travail et à l'emploi, à la recherche de l'enseignement supérieur, à l'aide publique au développement, et qui opère ainsi des coupes sérieuses sur les secteurs sociaux et publics. Des coupes aussi, il ne faut pas l'oublier, sur les dotations aux collectivités. La ponction de 2,2 milliards d'euros sur les recettes des collectivités ne rend pas compte de ce qui va peser globalement, avec la baisse du fonds vert, la hausse des cotisations employeurs à la caisse de retraite des agents des collectivités locales et les réductions de crédits sur les opérateurs d'État qui participent aux investissements locaux. Au total, ce sera plus de 6 milliards d'euros, certains chiffres à 9 milliards d'ailleurs, selon les calculs de l'Association des maires de France que les collectivités pour lesquelles les collectivités devront contribuer. Enfin, il faut bien noter que toutes les collectivités sont concernées, les EPCI, les régions, les départements, toutes ces collectivités sont touchées et que les choix d'économie que ces collectivités feront auront des répercussions sur les communes en ce qui concerne les aides et subventions qu'elles pourraient accorder et les prises en charge d'un certain nombre de choses. Très rapidement, on rappelle que ce budget est le fruit d'un choix politique, que la contribution différentielle limitée demandée aux plus hauts revenus n'a été adoptée que pour un an, et que le gouvernement ne s'attaque pas aux profondes inégalités sociales croissantes et a fortement limité la recherche de plus de justice fiscale. Les plus riches ont continué de s'enrichir. Une fiche de Bercy en janvier l'a montré. Les 74 500 foyers les plus riches du pays se sont enrichis beaucoup plus que tout le reste de la population. Et parmi eux, les 40 700 ménages dont le revenu moyen est de plus d'un million d'euros par an, alors que le revenu moyen déclaré en France est de 32 000 euros. Ils ont vu le revenu augmenter entre 2003 et 2022 de 119%. Ces revenus provenant seulement de 30% des salaires, mais de 46% du produit de placement financier. Autant dire que la question sociale reste entière et que la question de l'écologie est aussi très importante, que là, le budget de l'écologie est malmené. Et on voit même là, récemment, la remise en cause cause de l'Office de protection de la biodiversité par toute une série de personnalités de droite ou d'extrême droite. Donc les risques globaux sont importants et peuvent effectivement impacter la politique communale de Chaville.
Merci beaucoup Monique. Pour rappel, vous pouvez suivre en direct les conseils municipaux ou les regarder en replay sur le site de la mairie. On passe maintenant à la chronique de Jean Barthes.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de nos petits secrets, des petits messages gênants, des selfies embarrassants et bien entendu de nos projets secrets qui dorment dans notre téléphone qui sont aujourd'hui menacés. En cause, la pression grandissante des gouvernements à créer des portes dérobées dans les applications de messagerie pour lutter contre le terrorisme et les narcotrafiquants en accédant à volonté à nos données personnelles. Alors, de quoi parle-t-on ? Tout repose sur la question du chiffrement de bout en bout, le protocole qui permet à nos échanges d'être cryptés en dehors des appareils de destination. Concrètement, si je vous envoie un message, vous êtes le seul à pouvoir le lire avec votre téléphone. Donc aujourd'hui, si un gouvernement ou un hacker récupère le fichier contenant notre message, ces fichiers sont cryptés et ça les rend quasiment inexploitables. Quasiment, puisque pour casser le code, on peut déployer un super ordinateur pendant un long moment, ce qui ne vaut pas vraiment le coup quand il s'agit de monsieur ou madame tout le monde. Seulement, les gouvernements et les grandes boîtes, concernant le regard sur nos données personnelles, sont très friandes. L'une pour le contrôle des foules, l'autre pour entraîner des algorithmes pour vous vendre ce dont vous n'avez pas encore besoin. Ainsi, Apple, qui faisait de la sécurité des données un argument central de sa politique commerciale, a finalement cédé à la pression. Désormais, le chiffrement de l'iCloud au Royaume-Uni appartient au passé. À qui profite le crime ? On se le demande pas vraiment. Probablement qu'Apple ne sera pas avare de jeter un petit coup d'œil dans les données des Anglais pour enrichir ses agents IA. Mais en attendant, la faille fait date et pourrait ouvrir la voie à d'autres projets. Car en ce moment, la Suède a un projet de loi qui va dans ce sens, la France a également un projet à l'étude au Sénat, et nous nous rappelons bien évidemment que Pavel Durov, le patron de Telegram, a été arrêté en notre nom pour coopérer davantage avec la police française. Alors si bien évidemment nous sommes tous favorables à la lutte contre les trafics obscurs et les attentats, le jeu est-il vraiment à la hauteur de la chandelle ? Là, c'est la levée de bouclier. Côté français, la CNIL, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, et l'ANSSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, sont déjà positionnés. C'est non. Pour les experts privés, c'est non. Une porte dérobée est surtout profitable à la cybermenace. Quant aux autres entreprises, eh ben, tout le monde ne résiste pas de la même manière. Pour la présidente de Signal, Meredith Whittaker, ce type de porte dérobée entraînerait la fin du service. De l'autre côté, Meta, leader du marché avec WhatsApp et Facebook, ne s'est pas prononcé. Mais on connaît la faculté de Mark Zuckerberg à retourner sa veste, alors prudence. Sinon, nous, on fait quoi ? Moi, je recommande d'adopter la stratégie de qui peut le plus, peut le moins. Des entreprises comme Signal montrent une grande résilience là où d'autres vont dans le sens du vent. Pour nos emails, on peut stocker ou pour stocker des données, et il y a la société Proton, P-R-O-T-O-N, qui fait du bon travail. Et enfin, pour finir, les experts avertis recommandent de supprimer vos données les plus sensibles dès maintenant. Je cite « Ne gardez pas de données que vous n'êtes pas prêt à voir publiques d'ici 5 à 10 ans. » À raison, les hackers adoptent aujourd'hui la stratégie du « Harvest now, decrypt later ». Entendez, récoltez maintenant, décryptez plus tard. Car ce qui est correctement crypté aujourd'hui sera du petit lait pour l'informatique quantique. Mais ça, c'est un autre sujet.
Merci beaucoup Jean Barthes pour cette chronique. On passe maintenant à un peu de gastronomie. On va parler de l'oignon de Clément. À table avec Clément Chassin.
Aujourd'hui on va parler d'un légume qui est pas particulièrement triste mais qui a beaucoup fait pleurer, l'oignon. Donc l'oignon, donc c'est une plante du genre Allium, donc qui est de la même famille que l'ail, que l'échalote, que la ciboulette et le poireau.
Ouais.
Et oui. Ah,
ouais.
Voilà, donc c'est des plantes assez communes dans nos régions qui se conservent bien à l'abri de l'humidité et de la lumière. Ça se conserve sans problème. À tel point que pour lutter contre le scorbut, les marins emmenaient des oignons puisque ça se conserve mieux que beaucoup d'autres fruits riches en vitamine C. Donc, c'est un truc formidable. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, on peut l'ajouter dans plein de recettes, quand on fait sauter des légumes, quand on fait une omelette, dans la soupe, tout ça. L'oignon, ça va un peu partout. Comme j'ai dit que ça se conserve bien, mais il arrive que ça germe. Voilà, même moi, ça m'est arrivé. J'en ai ramené un là qui a un petit peu germé. Et comme je disais, ça fait partie de la même famille que le poireau ou la ciboulette. Et du coup, faut pas hésiter à manger les petits germes. On peut les ciseler, voilà, dans une omelette, dans une salade. Faut pas gâcher. Et enfin, moi je vais vous proposer ma recette à moi que j'adore, qu'on peut faire avec des oignons. On avait parlé de houmous la semaine dernière, alors a priori rien à voir avec l'oignon, mais voilà, Jonathan m'avait demandé quelles épices on peut ajouter dans l'oignon. Alors moi j'ai un livre, quelles épices on peut ajouter dans le houmous.
Le houmous.
Moi j'ai un livre entier sur le houmous, donc j'ai plein de recettes de houmous et on peut ajouter plein d'épices, de légumes. On peut même faire des houmous entre guillemets à base de lentilles ou de haricots. Alors les puristes du houmous me diront c'est pas des houmous, mais bon, là je vais pas faire dans le puriste. On peut faire plein de types de houmous et du coup aujourd'hui je vais vous parler d'une recette que moi je trouve qui marche à tous les coups. C'est le houmous aux oignons caramélisés.
Ouais. Tiens.
Et voilà, c'est génial, c'est facile, c'est économique et ça marche bien. Alors donc, la base, c'est 200 g de pois chiches, 2 cuillères à soupe de tahin, donc la pâte de sésame. Voilà, on prend 2 gros oignons, 1 cuillère à soupe d'huile, alors si possible, de l'huile de noix ou de l'huile de sésame, voilà, qui a un petit goût. On émince son oignon, on le fait roussir un petit peu à la poêle. On ajoute 2 cuillères à soupe de miel, 1 branche de romarin. On laisse caraméliser une dizaine de minutes. On enlève du feu. Donc ce qu'il y a dans la poêle, là, le oignon caramélisé, on en met la moitié avec les pois chiches teints, on mixe. Une fois qu'on a bien mixé, on rajoute ce qui reste d'oignon et de miel, tout ça, sel, poivre. Et voilà, ça fait un houmous qui a un petit goût bien sympathique, avec des petits morceaux d'oignon caramélisé dedans. Ça marche super bien.
Et en plus, ça se digère bien, parce que le problème des oignons crus, parfois dans certaines salades, c'est que c'est un petit peu difficile à digérer. Mmh. Alors que les oignons fondus, cuits, etc., ça passe très bien.
Ça passe bien, oui.
Merci beaucoup Clément pour cette nouvelle recette. C'est l'heure d'un peu de culture. Oui, Alain, tu rigoles, tu penses à quoi ?
Pas du tout.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Alain de Frémont, culture, art, de quoi tu vas nous parler ? D'une exposition, je crois.
Oui, alors bonjour à tous. Oui, la Cité de l'architecture et du patrimoine sur la place du Trocadéro à Paris. On vous propose jusqu'au 6 avril une exposition sur la saga des grands magasins. Quel est le point commun entre un costume de nourrice d'avant-guerre, une robe des années folles, un jeu de cube en bois et un fauteuil de cuir du designer Marcel Guimard ? Eh bien, tous furent mis en vente dans les rayons des grands magasins parisiens dans la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ainsi naquirent Le Bon Marché, Au Printemps, les Galeries Lafayette. Émile Zola, dont on parle souvent ici, s'était inspiré d'Aristide Boussicot, fondateur avec son épouse du Bon Marché, pour écrire son roman « Au bonheur des dames ». En effet, disent les spécialistes, les grands magasins sont nés pour viser une cible bien précise, la femme bourgeoise. Jusque-là, cette classe sociale, au fort pouvoir d'achat, disposait pour faire ses emplettes de boutiques baptisées « magasins de nouveautés ». Une nouvelle génération d'entrepreneurs a imaginé des lieux de commerce plus grands et diversifiés. Lorsqu'ils fleurissent dans la capitale, ces établissements s'implantent dans les rues nouvellement percées par le baron Haussmann, avec de vastes trottoirs qui favorisent la contemplation des vitrines. Dans ce paysage haussmannien, ces édifices sont coiffés d'une rotonde, coiffés elles-mêmes d'une coupole, et à l'intérieur, ce spectaculaire avec ses escaliers d'honneur, ses vastes halls, s'apparentent à des cathédrales du commerce moderne. Ces grands magasins reposent sur l'idée que l'acte d'achat ne doit pas répondre à la nécessité, mais à un désir. Ils deviennent des lieux où l'on peut passer la journée, boire le thé, admirer les tableaux, bref, des lieux de sociabilité. Après la femme bourgeoise, ces temples de la consommation cherchent une nouvelle cible et la trouvent en visant la mère de famille, et donc les enfants, en déployant dans les rayons une grande collection de produits pour enfants, costumes, uniformes, jouets, tricycles. On y développe aussi la science de l'étalage. Les vitrines des grands magasins deviennent des théâtres miniatures avec des mises en scène pour les grands événements de l'année. Noël, Pâques, la rentrée des classes. Et on peut tout manipuler, ou presque, sur les étalages. On s'y sent libre, un peu trop même. Car en 1902, pour décrire la manière dont est organisée la tentation, le psychiatre Paul Dubuisson dira « Satan n'aurait pas fait mieux ». Bientôt apparaissent les kleptomanes, ces femmes qui volent ne sont pas forcément dans le besoin, mais souvent des bourgeoises qui ne résistent plus à leurs désirs. On y découvre aussi, et c'est assez surprenant, dans un film sur le bon marché, que les commandes par correspondance existaient déjà, ainsi que ce que l'on pouvait appeler le télétravail. En effet, on y voit une femme à son domicile qui berce son enfant dans sa poussette d'une main et qui trie les commandes à faire de l'autre main. Mais l'exposition va plus loin en s'ouvrant sur un panorama mondial de leur architecture monumentale avec des collections encore jamais exposées. Entre 1930 et 1980, les grands magasins font face à l'émergence des supermarchés et hypermarchés. Pour survivre, ils deviennent des machines à vendre avec des stratégies marketing et une rationalisation des espaces. Ils maintiennent leur influence en proposant un art de vivre et en particulier à la révolution du prêt-à-porter. À partir des années 1980, les crises économiques et la concurrence des grandes surfaces entraînent une remise en question des grands magasins. Certains ferment, tandis que d'autres renouent avec leur identité architecturale. De nos jours, le commerce en ligne pousse les grands magasins à se réinventer sans cesse, en offrant des expériences uniques et des services toujours plus nombreux, voire luxueux. La saga des grands magasins, c'est aussi une approche interactive et ludique, grâce à des dispositifs spécialement conçus pour des découvertes en famille. C'est jusqu'au 6 avril, au Trocadéro.
Alors, il y a un épisode pour les grands magasins dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la grève de 1936 dans les grands magasins.
C'est évoqué.
Parce que ça a été quelque chose d'extraordinaire et pas du tout prévu. Hein, on n'avait jamais vu toutes ces femmes se mettre en grève, occuper les grands magasins, etc. Donc ça, c'est un épisode extrêmement intéressant.
C'est très complet comme exposition. Vous verrez.
Ils en parlent aussi lors de cette exposition. Merci beaucoup, Alain de Frémont. On passe enfin à la dernière chronique de cette émission, à portée de parole avec Marianne Hefschmidt, qui va nous parler de son parcours atypique. À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Voilà, bah écoute, bonjour Marianne, hein, merci bonjour. D'être venue nous voir. Avant de parler de ce que tu fais maintenant, ça serait intéressant que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel finalement et comment t'en es arrivée là.
Ok, bah écoute, bonjour à tous déjà. Donc moi je suis photographe, j'ai fait l'école des Gobelins au départ et j'ai toujours exercé en tant que freelance toute ma vie. Mais j'ai pas fait que de la photo, je suis devenue formatrice, enfin j'ai fait plein de métiers différents, j'étais community manager, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Et là, le dénominateur commun de tous mes métiers, ça a été la cohésion d'équipe, toujours. Voilà, donc je sais pas.
T'as aussi fait une formation de psychologue en thérapie brève, on va dire.
Voilà, psychopraticienne, c'est-à-dire j'ai fait une formation en PNL, donc c'est la base des thérapies brèves.
D'accord. Tout ça, au moins, donc tu as travaillé là pendant des années et des années.
Oui. Hein, j'ai beaucoup été formatrice en Photoshop. Au départ, c'était Photoshop et la photographie. Et puis après, on m'a demandé différents sujets. Donc, j'ai créé des formations dans le graphisme, la mise en page. Et un jour, j'ai publié un article dans un réseau social qui était un petit forum de Viadeo à l'époque. C'est l'équivalent de LinkedIn. Et cet article a eu un buzz incroyable. Il y a eu 33 000 clics de lecture et 350 réponses d'internautes. Donc, et c'était sur le sujet de la façon de se présenter sur les réseaux sociaux, LinkedIn, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça sert à trouver du boulot ou pas. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un vrai sujet, et du coup, j'ai créé des formations sur comment se présenter, comment se valoriser, et comment chercher du boulot, vu qu'en tant que freelance, on a besoin de chercher du boulot toute sa vie.
D'accord.
Donc, en fait, j'ai une habitude de quand et puis surtout la différence entre ce que je faisais au début, quand j'étais toute jeune, et ce que j'ai fait après, quand j'ai commencé à avoir beaucoup plus confiance en moi, quoi.
Et là, 10 ans après que tu aies fait ce travail,
cette formation, oui, parce qu'après j'ai créé donc cette formation et je l'ai enseignée, enfin je l'ai enseignée dans beaucoup d'écoles de journalisme, de commerce et de cinéma à Paris. Voilà.
Voilà. Et donc, France Travail sort une formation qui porte le terme, en gros,
comment
valoriser son travail.
Exactement. Ils m'ont piqué mon idée, mais j'étais très fière quand même, parce que c'est un vrai sujet, et j'ai trouvé ça génial, quoi, qu'ils fassent ça. Et du coup, eh ben, c'est vraiment la chose que j'aime le plus faire parmi toutes les activités que j'ai eues.
D'accord. Et alors, depuis décembre 2024,
voilà.
Tu es formatrice auprès d'un prestataire de France Travail.
Oui.
Donc, tu vas nous raconter à quel public tu as affaire, de quoi ces personnes-là témoignent, et puis finalement, comment fonctionnent ces stages, comment ça s'organise et quels sont les résultats.
Bah, les résultats, moi j'adore. J'adore les résultats spectaculaires que ça donne. Donc c'est des gens qui arrivent souvent éloignés de l'emploi, hyper coincés, isolés, timides, déprimés. Beaucoup ont des handicaps physiques ou mentaux, des problèmes physiques aussi, des douleurs, des histoires de vie pas possibles qui finissent par nous raconter, parce que la formation dure 12 jours, donc on a le temps de voir venir. Et puis il y a plein de jeux ludiques, et donc on les entraîne à se lever devant tout le monde, prendre la parole, faire des jeux de rôle et tout ça. Donc petit à petit, les gens se décoincent. Et moi, entre les exercices, je me débrouille pour leur refiler toutes les clés et techniques les plus géniales que j'ai accumulées tout au long de ma vie, de recherche en développement personnel, en PNL, programmation neurolinguistique, donc en thérapie brève, et notamment dans le développement de leur intelligence émotionnelle. Donc je les entraîne avec tous mes outils. Et donc petit à petit, les gens se sentent en confiance, ils se lâchent, ils osent un jour ou l'autre, ils osent se confier au groupe sur les mauvaises expériences passées, les traumas de vie. Ça les soulage immédiatement, ou par exemple la dernière fois qu'ils se sont fait harceler au boulot, et pourquoi ils n'arrivent pas à retrouver du boulot aussi.
Ouais.
Du coup, tout ça, ça vient sur le tapis. Et puis les gens, immédiatement, ça leur fait un appel de soulagement. Et voilà, donc ça se passe hyper bien. Puis moi aussi, je leur dis, il y a 3 mois, j'étais comme vous, je cherchais du boulot. Donc voilà, on est tous pareils, quoi. On est tous dans la même galère. Voilà, et du coup, ça crée une cohésion dans le groupe. Après, comme je suis photographe, je leur fais faire une séance de photos, ils font des portraits, on garde la meilleure, donc ils sont beaux comme des cœurs, on les met en galerie devant tout le monde, donc ils sont fiers d'eux, ils sont contents.
Oui, c'est...
Et aussi, oui, ils finissent par créer un groupe WhatsApp. Ils ont un logo, ils se sont donné un nom de groupe, et puis on crée un repas. Il y a un moment dans la formation, il y a un trou, et on peut créer un repas tous ensemble. Donc tout ça, voilà, ça crée des liens, quoi. Donc en conclusion, on passe d'un groupe hyper coincé, genre cours des miracles au début. Vraiment, il y en a qui parlent très très mal le français en plus, donc au début c'est chaotique et tout. À la fin, toujours systématiquement pour tous les groupes, à une bande de potes, surtout très solidaires, qui vont rester ensemble sur WhatsApp pendant des mois peut-être, qui vont s'accompagner et s'encourager dans ceux qui se plantent, ceux qui trouvent, ceux qui cherchent, ceux qui ont un entretien, etc. Et voilà, quoi. Et je suis super, j'adore faire ça. Ça me booste, ça me porte, parce que ça fait tellement du bien aux gens que ça me fait énormément de bien moi aussi, quoi.
Ouais.
Je me shoot avec ça, quoi.
Mais alors du coup, donc là tu as déjà eu 4 groupes de 12 personnes.
Oui.
Tu es avec le 5e groupe pour l'instant.
Oui.
Est-ce que tu as une idée du nombre ou une proportion de ces personnes qui ont pu effectivement du coup accéder à l'emploi, parce qu'au départ c'est quand même ça l'idée, c'est qu'ils retrouvent une image valorisée d'eux-mêmes, qu'ils reprennent confiance, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils se remettent au sport, enfin bon, que leur vie soit un petit peu plus agréable, et ensuite qu'ils puissent affronter de nouveau le marché du travail. Donc est-ce que tu peux avoir déjà quelques résultats?
Non, j'ai pas du tout d'idée de chiffres, de résultats. Et je sais qu'il y en a une qui venait souvent en retard et complètement crevée toute la journée, et qui en fait m'a avoué après qu'elle cherchait du boulot toute la nuit, tellement elle était obsédée par trouver du boulot vite fait, vite fait. Et elle a trouvé le lendemain de la fin du stage.
Bon.
Donc bon, voilà, mais c'est quand même plutôt exceptionnel. En fait, ça les remet en selle.
Oui, c'est ça.
Ça leur redonne la niaque pour qu'ils aient envie à nouveau de chercher, qu'ils reprennent un peu espoir, qu'ils voient la vie de façon moins dramatique, négative, qu'ils aient un groupe de soutien, ça les relance.
Oui, ils découvrent l'entraide.
Ça fait 3 mois que j'ai commencé, j'ai pas encore de résultats sur des gens. Et qu'ils aient un groupe d'entraide, c'est ça le plus important.
Qu'ils retrouvent l'entraide, la solidarité et une image plus valorisante d'eux-mêmes, quoi.
Ouais.
Et donc là, tu travailles du côté de Créteil et de
Vitry, Créteil,
etc.
Ouais.
Et donc, tu as vraiment affaire à effectivement un public extrêmement précaire.
Oui.
Donc, bon, et donc c'est bien. Donc, ce qui sera intéressant, c'est que dans un an, etc., tu puisses effectivement faire un peu un bilan, de...
ce qu'on retrouvait du travail, comme Pôle emploi va me demander.
Voilà, ça... Ça va.
Il y en a qui ont repris le sport. Enfin, tout le monde
oui, c'est
est.
Ça. Mais non, c'est ça qui est important.
Ils sont très contents. En tout cas,
bah, merci.
Alain, tu avais quelque chose à rajouter. Je te vois lever la main.
Oui, je voulais vous informer. J'ai eu l'occasion avec trois personnes de mon entourage qui ont été victimes d'une escroquerie à la carte bancaire qui se développe beaucoup sur Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray. Alors,
une escroquerie à la carte bancaire.
Oui, c'est le commissariat de police de Sèvres qui appelle une personne et qui lui dit nous venons de démanteler un trafic de trois personnes. Mm-hmm. Deux sont sous les verrous. Mm-hmm. Mais la troisième est toujours en liberté. Donc, il faut être extrêmement prudente. Donc, nous avons la photocopie de votre carte bancaire. Il faudrait qu'on vérifie avec la vôtre.
Ah, oui,
et à ce moment-là, ça coupe et on entend commissariat de police de Sèvres, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Bah, tout est très très sérieux.
Ah, ouais.
Et au bout d'un moment, la personne dit mais si vous voulez, donc on vérifiera à la fois votre code, à la fois
tout.
Et vous pouvez aller déposer votre carte rue de l'Enconvention à Paris, ou alors on vous envoie un coursier si vous préférez, si vous avez du mal à vous déplacer. C'est des personnes un peu âgées qui sont ciblées. Hein.
Très organisées.
Donc à chaque fois, les personnes ont dit il y a un coursier. Ah, et 20 minutes après, il y a une jeune femme très, très distinguée qui est venue et qui a récupéré la carte bancaire.
Ressemble à Monique Couteau.
Voilà. Oh. Et alors, le deuxième, c'est le conseiller bancaire qui appelle et qui dit « Est-ce que vous êtes allé à l'étranger récemment ?» Non. Parce qu'on a deux paiements qui ont été tirés aux Pays-Bas. Donc, on a les preuves que ça a été tiré. Oui. Est-ce qu'on voudrait comparer aussi, etc. La même chose, on vous envoie, soit vous allez à la convention,
ça va loin, hein.
Soit on vous envoie un coursier, et donc le coursier arrive, et puis voilà. Donc, soyez très, très prudents.
Ouais.
Merci,
Monique. Peut-être
une
petite conclusion, quand même, sur l'intervention
j'allais le faire.
De Marianne.
Merci beaucoup, Alain de Frémont, pour cette parenthèse. Merci, Marianne Schmitt, pour ce témoignage. Pour bénéficier de cette formation, on peut s'auto-préinscrire sur France Travail.
C'est la formation VSI, valoriser son image professionnelle.
C'est ça, il faut chercher la formation VSI ou la demander à son conseiller France Travail. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, 8h. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.